6h43 à Paris, tout de suite, c'est le journal des sports. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à tous.
Du foot, rien que du foot au programme aujourd'hui, avec la fin hier de la 6e journée de qualification à la Coupe du Monde 2026. 15 matchs étaient au programme et beaucoup de suspense encore.
Ah, disons que les 4 dernières journées à l'automne prochain promettent d'être passionnante, avec de sacrées luttes finales pour les premières, voire deuxième place de groupe. Alors sachez tout de même que le Maroc, Andréane, n'est pas officiellement parmi les 7 pays qualifiés déjà dans le monde pour ce mondial, mais c'est tout comme. Victorieux 2-0 de la Tanzanie, les hôtes de la prochaine CAN comptent 9 longueurs d'avance sur le Niger dans un groupe de 4, puisque l'Érythrée, on le sait, ne joue pas, et que le Congo Brazza attend de savoir à quelle sauce va le manger la FIFA. Pour le reste, il faut parler de la lutte intense que continue de se livrer Congolaise et Sénégalais dans le groupe B. La RDC est en tête, toujours après son succès 2-0 à Ouagadougou face à la Mauritanie. Mais le Sénégal est tout près, à un point seulement, comme le Soudan. Les champions d'Afrique 2021 ne brillent pas, loin s'en faut, mais gagnent, comme hier, 2-0 face au Togo à Dakar.
À noter également le succès très important du Cameroun chez lui.
Nécessité absolue à Yaoundé de battre la Libye pour rester au contact du Cap-Vert. Vainqueur en Angola 2-1, chose faite, 3-1 avec un doublé de Vincent Aboubakar, qui avait appelé à l'apaisement entre fédération et ministère la veille. Les Lions indomptables sont à une longueur des Capverdiens. Un succès fêté à Yaoundé sous les yeux de Joël Ouadem.
Ce sont plus de 35 000 spectateurs dans un stade omnisport de Yaoundé surchauffé qui ont porté les Lions indomptables à la victoire. Une victoire de 3-1 avec deux inscriptions du capitaine Vincent Aboubakar, qui a presque fait oublier le match décevant contre l'Eswatini.
Je suis très content de voir le Lyon qui est de retour et j'espère qu'avec cette performance, on va se qualifier pour la Coupe du Monde.
La rencontre dans l'ensemble a été très belle. Je m'attendais personnellement à une victoire, mais avec 1-0. Je suis très contente de cette victoire des Lions.
C'est une équipe des Lions indomptables qui s'est fait pardonner sa sortie décevante face à Eswatini il y a quelques jours. Il y a encore du boulot à faire, mais c'est déjà ça de gagner 3 points et de rester dans la course à la qualification.
Pour l'entraîneur Marc Brice, les Lions indomptables n'avaient pas droit à l'erreur.
Tout le monde en était conscient que ça va être un match clé pour rester dans la route pour une qualification de Coupe du Monde. Alors on a fait ça. Je suis très, très content de cohésion de notre équipe.
Malgré cette belle prestation, les Lions indomptables sont deuxièmes du groupe D avec un point de retard sur le Cap-Vert. Mais les chances de qualification pour leur 9e Coupe du Monde restent intactes. Joël Ouadem, Yaoundé, RFI.
Et l'Algérie, 5-1 face au Mozambique, son dauphin. L'Égypte, 1-0 contre la Sierra Leone, ont pris, elles, de très sérieuses options en vue de la qualification pour ce mondial. Les Comores, 1-0 face au Tchad, peuvent continuer à en rêver, à 3 points des Ghanéens, au contraire de la Guinée, hein, battue 1-0 en Ouganda, ou même du Bénin, désormais à 5 longueurs de l'Afrique du Sud, qui s'est imposé hier 2-0 face au Guépard de Guernotror. Mal embarqué aussi dans le même groupe, les affaires du Nigeria, 1-1 hier à Ouyo pour les Super Eagles face au Zimbabwe. Ils sont quatrièmes à 6 points des Sud-Africains. Retour de cette course à la Coupe du Monde. Je sais que vous l'attendrez avec impatience, Andréane, en septembre.
Merci Olivier Pron, vous revenez tout à l'heure. On vous attend avec impatience aussi à 7h13, heure de Paris.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mellard.
Des drones, dont deux au-dessus de la mer Noire, abattus par la Russie cette nuit. Information donnée ce matin par le ministère russe de la Défense. Et cela intervient au lendemain de l'annonce par Washington d'un accord de cessez-le-feu justement en mer Noire entre Russie et Ukraine. Oui, mais, avait dit Moscou hier, posant à nouveau des conditions à toute cessation des hostilités. Pour le Kremlin, cet accord ne pourrait entrer en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes. Les accords annoncés vont dans la bonne direction, a dit hier l'Élysée à Paris, mais ils ne sont pas suffisants pour aboutir à un cessez-le-feu durable. Fin de citation. Paris qui appelle la Turquie à se comporter, je cite, comme un grand partenaire démocratique. Washington, de son côté, s'inquiète des arrestations et des manifestations dans le pays. La Turquie où, pour le 7e soir consécutif hier, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays. Mouvement de contestation né, on le rappelle, de l'arrestation la semaine dernière du maire maire d'Istanbul. Plus de 1400 personnes ont déjà été arrêtées en marge de ces cortèges, les manifestations étant officiellement interdites depuis une semaine à Istanbul, à Ankara et à Izmir. On y revient dans le journal de 7h et avec notre invité à 7h20, le bâtonnier du barreau d'Istanbul. Une catastrophe en Corée du Sud, un hélicoptère déployé pour la lutte contre les vastes feux de forêt en cours dans le pays s'est écrasé ce mercredi, annonce ce matin. Le pilote est mort, tout cela donc dans le contexte d'une série de feux de forêt dans le sud du pays, parmi les plus meurtriers de l'histoire du pays. Notre grand invité Afrique ce mercredi, il est l'actuel chef de la transition au Gabon, candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Et sur notre antenne, Brice Clotaire-Oligui Nguema le dit, je ne veux pas être porté par un parti ou par un clan, mais par le peuple gabonais. Écoutez tout de suite son entretien enregistré à Libreville avec Christophe Boisbouvier de RFI et Marc Perelman de France 24. À la technique, Jadel Koury.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est Brice Clotaire-Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, monsieur le président, de nous accueillir. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision?
Ali Bongo Ndimba a été renversé. Effectivement. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Je suis un civil, tout comme les autres.
Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Son épouse, Sylvia, son fils, Nourdine, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction?
Au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, ce n'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. Il y a le temps de la justice.
Monsieur le Président, le problème, c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès?
Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent.
On y est presque, donc.
Vous le dites.
Alors, beaucoup de caciques de l'ancien régime, on vient de parler des deux personnes poursuivies, beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo?
Je ne suis pas PDGiste. On ne peut pas me dire que dans un gouvernement de 35 ministres, il n'y a que 5 PDGistes. Et on dit que c'est les plus nombreux au gouvernement. Et je vous le dis, il faut les compter au gouvernement. Laissez les gens parler, comme au Gabon le dit, c'est du Congo ça. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs, tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan.
Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats. Mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondosa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver-Maganga Moussavou, et le syndicaliste Jean-Rémi Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre, ou au moins vous forcez à un deuxième tour.
Au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat. C'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un Ondossa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Ce pays doit changer et il va changer.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale.
Le chef de la transition gabonaise, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, entretient avec Christophe Boisbouvier et Marc Perelman, à retrouver sur la longueur et en vidéo sur notre site RFI.fr. Votre chronique matière première, ce matin, on s'intéresse au marché des engrais et à l'Arabie Saoudite qui s'impose comme un acteur majeur du secteur. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Vous nous dites, Marie-Pierre, ce matin que le royaume saoudien a lancé une stratégie de diversification de son économie et les engrais en font partie.
Et oui, le pays pétrolier cherche effectivement à réduire sa dépendance aux hydrocarbures et a compris que les engrais pouvaient être une alternative économique intéressante. L'Arabie Saoudite a tous les ingrédients pour réussir dans le secteur des roches phosphatées, du soufre et de l'énergie bon marché. Les autorités se sont donc décidées à investir des milliards de dollars pour bâtir un empire des engrais. Elles ont soutenu des alliances entre la société minière du pays, un groupe de chimie industrielle et un expert américain des engrais. Le groupe Mosaïque Alliance, qui ont abouti à la mise en place d'une chaîne de production saoudienne d'acide phosphorique, d'acide sulfurique et d'ammoniac, des composants essentiels pour la fabrication d'engrais.
Les exportations du pays ont décollé, elles sont comparables à celles du Maroc ou des États-Unis.
C'est une étude menée par le cabinet Global Sovereign Advisory qui fait cette comparaison. Grâce à l'inauguration de plusieurs usines, la part de l'Arabie Saoudite dans le commerce mondial des engrais a presque triplé entre 2019 et 2023 pour atteindre près de 6% de part de marché. L'Arabie Saoudite est devenue le deuxième exportateur de DAP, un engrais utilisé pour tous les types de cultures, deuxième après le Maroc, et l'ambition du pays est de rester incontournable sur le marché de ces engrais phosphatés dans les prochaines années.
L'Arabie Saoudite qui vend l'essentiel de ses engrais en Asie mais ne s'interdit pas d'aller sur le terrain de jeu de l'office chérifien des phosphates, à savoir le continent africain.
Et son principal client sur le continent est l'Afrique du Sud, mais l'Arabie Saoudite vend aussi au Kenya, à l'Algérie, à la Tanzanie et au Mozambique. Elle occupe 10% de parts de marché à ce jour en Afrique, mais reste implantée globalement en Afrique de l'Est, alors que le mastodonte marocain, l'OCP, pour des raisons géographiques, est lui plutôt implanté en Afrique de l'Ouest. L'OCP a évidemment encore 3 longueurs d'avance sur le continent, mais l'Arabie Saoudite est clairement un concurrent qui monte et qui a les moyens d'offrir des prix très compétitifs.
Merci Marie-Pierre Olfan. Notre grand reportage du jour sur RFI, 20 minutes en Bolivie ce mercredi, le pays qui subit chaque année des feux extrêmement violents. Rien que l'an dernier, 2024, 10 millions d'hectares, l'équivalent de 3 fois la superficie de la Guinée-Bissau, sont partis en fumée. Et plusieurs mois après l'extinction des feux, les conséquences sont toujours palpables et nombreuses. Perte des récoltes, impact des fumées sur la santé et biodiversité en grande difficulté. Bolivie, brûlons la forêt pour étendre élevage et culture, c'est un grand reportage de Nils Sabin. En voici un extrait.
Ici, on parle de la saison des feux de la même manière que l'on parle de l'hiver ou de l'été. Ça arrive chaque année de manière toujours plus forte et violente.
Cléo Suissen travaille au parc Ambuari dans l'est de la Bolivie. Dans ce sanctuaire, on récupère et soigne des animaux sauvages issus du braconnage, des incendies ou encore de la déforestation. D'année en année, les incendies sont toujours plus importants et comme dans toute la région, dans ce parc, on s'est habitué à devoir lutter contre les flammes.
Maintenant, nous avons des bottes, des pantalons qui protègent du feu, en gros de l'équipement de pompier. On a aussi des sacs à dos anti-incendie d'une capacité de 20 litres pour transporter de l'eau et asperger les flammes. C'est de l'équipement professionnel que l'on a acheté avec nos propres fonds et grâce à des dons.
Il y a 20 ans, le parc était encore entouré de forêts. Aujourd'hui, c'est un îlot de biodiversité au milieu des champs et des prairies d'élevage. En période d'incendie, de juillet à octobre, de nombreux animaux brûlés ou déshydratés sont amenés à la clinique vétérinaire du parc par la population. paresseux, singes, tortues ou encore oiseaux y sont soignés avant d'être relâchés dans le parc. À cela s'ajoutent nombre d'animaux sauvages qui viennent d'eux-mêmes se réfugier dans le sanctuaire, comme l'explique Ivan Marquez, biologiste en boisserie.
Pendant les incendies, tous les animaux fuient vers ici. Comme il y a plus de proies qui viennent, il y a aussi plus de prédateurs, donc l'écosystème du parc est souvent surchargé. Pour faire face à ça, nous devons parfois aider ces animaux sauvages avec de l'eau, voire de la nourriture, car il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde.
En 2024, les incendies ont durement frappé en Boari. La moitié du parc, soit 500 hectares, a été ravagée par les flammes. Avec la saison des pluies, la jungle est de nouveau verdoyante, mais cela ne veut pas dire que la végétation n'est pas en train de changer, rappelle Cléo qui nous emmène en pleine forêt.
La terre est plus sèche, la végétation change, et de manière générale, tout s'assèche plus et plus rapidement. Alors qu'avant, la période sèche arrivait plus tard. Tout cela crée des conditions optimales pour que le feu arrive et se propage.
Ce grand reportage de Nils Sabin a écouté en intégralité aujourd'hui sur RFI à 12h10 et 20h40, heure de Paris, à retrouver aussi sur notre application RFI Pure Radio.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Togo, l'opposition maintient la pression pour dénoncer la nouvelle constitution votée il y a un an et qui permettra au président Faure Gnassingbé de rester à la tête de l'État. Que vous inspire cette mobilisation? Quelle est la marge de manœuvre des opposants? On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Silence ! La Cité des sciences et de l'industrie consacre une exposition au silence pour réfléchir sur notre rapport ambivalent au bruit et à son contraire. Recherché, mais parfois angoissant, plus c'est calme autour de nous, plus cela s'agite en nous.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.